Bonjour et bienvenue, et puis bonne année pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous ceux qui sont là. Bienvenue dans ce groupe de partage autour de la non-dualité. Et c'est un groupe que j'ai été inspiré à appeler les humains du rêve heureux. Pour ceux qui, parmi nous, ont de plus en plus conscience du jeu qu'ils jouent, mais pourtant restent sur la scène, et bien qu'ils sachent qu'ils rêvent de ce monde, ils y sont et ils collaborent à l'éveil de l'humanité en étant conscients de leur rôle. Donc bienvenue à tous ceux qui se savent dans le rêve, et bienvenue à ceux qui veulent se réveiller du rêve. Et nous commençons avec un son de cristal, voilà, qui nous rappelle de laisser résonner en nous ce qui a besoin de résonner. Voilà, c'est la note Fa qui a été mise par ce bol de cristal. Et la note Fa est la note du chakra du cœur. Chaque chakra correspondant en même temps à une couleur et à une note de musique, en plus d'être un espace énergétique dans notre corps. Et donc, ça peut aussi symboliser cette vibration qui vient du cœur et qui nous appelle à nous réunir, qui nous appelle à être ensemble, à nous soutenir les uns les autres lorsque il y a des passages du rêve qui ressemblent un peu à des cauchemars, qui ressemblent un peu à des choses désagréables ou tendues, à nous rappeler notre rôle de figurant dans cette pièce et dont le scénario a été écrit par nous-mêmes dans un autre plan. Et bien que nous ayons soigneusement effacé de notre mémoire tout ce qui pourrait nous rappeler que nous sommes les auteurs, les scénaristes, les dialoguistes, les metteurs en scène, les accessoiristes, les maquilleurs de tout ce qui se passe dans notre monde, de tout ce que nous rêvons en tant qu'humains sur Terre. Alors bien sûr, ça n'a rien de mal de rêver, et puis ça n'a rien de mal de considérer que le rêve est réel, ou qu'il semble très réel. Pour la plupart d'entre nous, c'est même la seule réalité, jusqu'à ce que un beau jour, quelques questions se posent et demandent instamment une réponse à l'intérieur. À quoi sert ma vie? Pourquoi je suis là? Est-ce que c'est juste ça? Naître, vivre dans le labeur, la souffrance, et mourir? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que ça a un sens, tout ça? Donc nous allons partager, je vais donner quelques directions qui sont loin d'être exhaustives, mais qui pourront être détaillées, approfondi, éclairci pour celles et ceux qui en ont besoin. Et les chers frères et sœurs qui écoutent en ce moment l'enregistrement sont les bienvenus également à poser des questions par téléphone si le cœur leur en dit, ou si cette question demande pour eux un approfondissement dans l'esprit de la non-dualité. Ce qui nous ramène à la phrase « Nous sommes un », à la phrase qui nous unit tous par le cœur. Voilà alors les sujets qu'on pourra aborder en premier lieu sont les sujets de la vie quotidienne, parce que tout ce que nous vivons dans la vie de tous les jours, les petits inconforts comme les grosses dépressions, tout parle de notre condition duelle. Et c'est un tremplin extraordinaire pour éclairer ça de non-dualité, hein, pour nous ramener à un ensemble plus vaste, un ensemble plus holographique, c'est-à-dire où chaque partie contient le tout, où chaque partie est le tout. Donc comment mieux percevoir notre véritable nature divine, hein, comment pouvons-nous aussi utiliser le vrai pardon pour pacifier notre vie? Comment nous pouvons utiliser le mot Dieu et quel est son sens dans la non-dualité? Comment dans certaines situations nous pouvons choisir d'être heureux, heureuse, plutôt que d'avoir raison, comme disait Yeshua? Comment identifier l'ego comme étant la croyance d'être séparé et de plus s'identifier à lui, justement? Comment percevoir le pouvoir puissant de nos intentions, le pouvoir divin de nos intentions? Comment ce que je vois du monde est un reflet de mes pensées? Comment distinguer les deux niveaux de perception dont parle un cours en miracle, le niveau de l'illusion et le niveau de la vérité ou de la réalité? Comment être dans un monde de dualité sans être de ce monde? Ça peut être aussi une manière de vivre le rêve heureux également. À quoi peut bien servir le scénario de nos vies terrestres? Comment, selon une leçon d'un cours en miracle, comment la guérison est-elle de l'esprit, la vraie guérison? Quelle est aussi la nature du voile de séparation que nous avons mis sur notre esprit divin, sur notre esprit juste? Et à quoi sert-il? Qu'est-ce que le plan divin pour l'humanité? Et puis, comment puis-je apprivoiser l'ego et le mettre à mon service, à notre service? Et comment je peux obtenir de l'aide de la part du monde subtil, celui qui nous est invisible, simplement en la demandant, hein, cette aide étant disponible en permanence depuis la partie élevée de nous-mêmes qui est cette partie hors du temps, de l'espace, et qui connaît la solution à tout problème, puisque il n'y a pas de temps pour séparer le problème de sa solution dans cette dimension-là. Voilà, bienvenue donc à tout ce qui a besoin d'être dit, bienvenue aussi au temps de silence dans lesquels nous pouvons recevoir de l'inspiration ou simplement être présent à ce qui est présent dans ce groupe, visible et invisible. Et puis il y a une phrase avec laquelle je commence souvent, qui peut être un résumé très bref de tout ce que nous pouvons dire sur la non-dualité, et c'est juste deux mots. Dieu est. Dieu est, dans le sens également, Dieu est tout ce qui est, toute l'existence. Dieu pouvant être remplacé par n'importe quel terme qui pour vous a un sens global, qui inclut tout. Et nous utilisons Dieu, mais ce n'est pas exhaustif ni restrictif comme mot. Donc ça peut être la source, l'univers, l'existence, la vie, l'amour, tout ce qui est, le grand tout. Peu importe le mot, c'est qu'est-ce que j'entends par ce mot qui compte. Et ce n'est certainement pas, à l'instar de ce que prêchent les religions qui s'appuient sur certains dogmes, et qui ne sont pas jugés pour autant, puisqu'elles jouent leur rôle, et qui placent Dieu en tant qu'entité extérieure à nous, et qui a le pouvoir de nous condamner ou nous accepter, et le pouvoir d'être jaloux, rancunier ou d'autres caractéristiques égotiques. Voilà, nous pouvons dire aussi que chacun de nous est Dieu et que nous sommes une facette dans la multiplicité d'un diamant à de multiples et multiples facettes, et pas seulement celle de nos existences terrestres, mais de tout le vivant, dans tous les mondes et dans tous les univers, puisqu'il semblerait qu'il y a d'autres univers que simplement celui que nous percevons. Voilà, tout cela n'a aucune importance, que ce soit un petit rêve ou un grand rêve, ça reste un rêve, y compris les autres formes de vie qui nous écrivent, qui nous envoient des messages, font aussi partie de cette illusion, et c'est un ensemble hiérarchique de rêveurs qui se mettent au service d'autres rêveurs pour sortir de plus en plus, être de plus en plus conscient du rêve. Donc ça inclut Salusa et d'autres. Voilà, et donc j'ai envie de parler du dernier message de Salusa, parce que la première phrase était extrêmement parlante pour moi, et c'est comme si j'avais pas besoin de lire autre chose que la première phrase dans cette canalisation. J'essaie de la retrouver. C'était le 28 décembre 2012. Donc les messages de Salusa pour moi étaient pleins d'espoir, pleins de promesses, pleins aussi de prédictions entre guillemets. J'ai pu constater que ça activait un peu mon ego, dans le sens d'entrer dans certaines attentes. Ils vont arriver, ils vont changer le monde. Moi, je vais être là en spectateur et je vais enfin voir à quoi ils ressemblent. Et puis, le monde va devenir un paradis. Et moi, j'aurai rien à faire, juste spectateur. Et intuitivement, je sentais que cette phrase allait arriver. Hein, et je sentais qu'elle était juste. Et en une seule phrase, Salusa dit, nous transmet, peu importe le nombre de prédictions faites, étant donné qu'elles ne sont que des probabilités, que seuls vos pouvoirs créateurs détermineront si oui ou non, elles se matérialiseront. Voilà, je peux pousser un grand soupir de soulagement. Laisser mon ego à ses attentes après avoir lu cette phrase. Et ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu, même si c'était sous-jacent pendant toute la lecture des messages précédents, c'est Salusa et toute son équipe nous transmettent ces messages dans le but d'élever nos vibrations pour que nous puissions mettre à profit nos pouvoirs créateurs. Ils sont comme des catalyseurs, hein, qui ne font rien, mais en la présence desquels tout d'un coup, je peux avoir envie de changer de paradigme, envie de changer de réalité, de gouvernement, de mode de fonctionnement sur Terre. Mais eux-mêmes ne font rien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rencontre un jour, mais c'est une question de niveau vibratoire. Et notre niveau vibratoire nous appartient à 100%. Et le déploiement de l'amour qui, dans cette nouvelle ère, est de plus en plus présent sur Terre, le fonctionnement à partir du cœur sur Terre, est ce qui est de nature à élever les vibrations de toute l'humanité. Donc apparemment, ça prendra dans ce rêve encore un petit peu de temps. Mais les témoignages que nous recevons sont que les niveaux de vibration sont inégalés en ce moment et qu'en parallèle à ça, les niveaux de réalisation et de manifestation peuvent être très courts puisque ces intentions, ces fréquences s'additionnent dans notre multiplicité dans ce rêve-là. Donc voilà, ça n'a pas empêché Salouza de continuer à faire des prédictions juste après. Et moi, j'ai commencé à les lire avec le sourire, hein, à les lire en me disant, bah, très bien, hein, on peut croire à ça en effet. On peut croire que c'est possible, hein, et c'est ça dont il est question. Il ne s'agit que de potentiel. Et parfois, moi, j'écris potentiel en trois mots. Voilà. Donc, votre gouvernement actuel, celui des USA ainsi que celui de la plupart des pays du monde occidental sont proches d'être remplacés. Et c'est un pas important qui permettra la modification d'autres choses. Alors, ça va se passer dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans cinq ans. Peu importe la direction, c'est lorsque l'humanité élève son niveau vibratoire, ce n'est plus possible d'élire des politiciens corrompus. Ce n'est plus possible d'élire des personnes qui pensent au profit personnel. Jamais Hitler ne serait arrivé au pouvoir s'il n'avait pas été cautionné par une population avec un niveau vibratoire correspondant au sien. Et donc, forcément, les gouvernements changeront si l'humanité change. Mais ça ne se passera pas sans une élévation vibratoire de ce qui nous sommes. Voilà. Alors, à titre de rappel, Dieu étant tout ce qui est, autorise tout ce qui est, autorise la manifestation de quoi que ce soit comme expérience, accueille tout et ne répond à une seule réponse à toutes les situations, d'accord. Quoi que ce soit que j'imagine de rêver, que j'imagine d'expérimenter, Dieu est d'accord. Hein, et je peux, sans me juger, sans être jugé, autoriser la pleine gamme entière de nos manifestations. Voilà pour la présentation et j'avais envie de parler de quelque chose qui m'est venu ce matin alors que je petit déjeunais et c'était étrange parce que ça s'est présenté à moi sous la forme de deux mots, système immunitaire. Ces deux mots qui sont pas anodins parce que on en parle beaucoup mais qu'est-ce que c'est, hein? Et je me suis dit, il y a des animaux qui mangent des charognes, de la viande en putréfaction. Hein, je voyais un documentaire, je me suis dit, bah, eux, ils tombent pas malades. Hein. Eux, c'est leur rôle, c'est les éboueurs de la savane, de la taïga. L'univers est fait admirablement, puisque chacun a son mode d'alimentation. Il y en a qui tuent les proies, il y en a qui se chargent des os, il y en a qui se chargent de la viande, des carcasses qui pullulent, qui pourrissent. Mais pourtant, voilà, ils ne tombent pas malades. Pourquoi ? Parce que pour satisfaire leur rôle, la nature, avec un grand N, c'est-à-dire Dieu, nous, en tant qu'êtres divins, qui sont les grands planificateurs de cette dualité, les avons dotés d'un système immunitaire très puissant parce qu'ils en avaient besoin. Si un vautour tombait raide mort parce qu'il mange des bactéries et que ça le tue, c'est terminé, il n'y a plus personne pour nettoyer les carcasses. Donc pourquoi ils ont un système immunitaire fort ? Parce qu'ils en ont besoin. Et puis si nous, on s'avère de jouer au vautour, ben c'est nous qui allons tomber raide mort dans pas très longtemps. Et il y a même des animaux, comme les grands varans, les dragons de Komodo. Moi, ça me passionne, toutes ces bêtes-là. Il y a beaucoup de sagesse pour moi dans leur comportement. Eh bien, ils sont prédateurs d'une manière très spéciale. Ils mordent leurs victimes et ils ont une salive tellement infectée de bactéries qu'ils vont se reposer pendant quelques heures et ensuite la victime meurt de septicémie. Donc eux, ils transportent un poison dans leur mais sous forme de bactéries. Et ce poison ne fait rien contre eux-mêmes. De la même manière, certains, les mangoustes, sont immunisés contre le venin de serpents. Voilà, c'est un grand mystère tout ça. Hein. Pourquoi notre système immunitaire est pas aussi fort ? Pourquoi, si moi je vais en tant qu'Européen me baigner dans les canaux de Bangkok, j'ai des grandes chances d'être rapatrié par avion, hein, avec les sirènes, et alors que les Thaïlandais qui y vivent ne s'en inquiètent pas. Donc c'est quoi le système immunitaire ? C'est le système que nous avons créé pour nous permettre de faire face à ce que moi j'appelle la vulnérabilité. Et prenez quelqu'un qui a la grippe dans le métro, mettez-le dans un wagon, et puis s'il éternue, s'il tousse, il va contaminer une partie seulement des personnes qui sont dans le wagon. Et il y a une partie qui ne va pas tomber malade. De la même manière, certains sont exposés au sida et ne le contractent pas. Donc l'immunité, c'est à quel point je me crois vulnérable. Et ça m'a enclenché toute une série de réflexions. Et récemment, j'accueillais une stagiaire dans un stage. Elle me dit « Surtout, ne m'embrasse pas, je suis grippé et tu vas te choper des trucs. » Je lui dis « Comment ça, je vais me choper des trucs ? Absolument pas. Viens que je t'embrasse. » Et puis je lui ai fait une bise sur les deux joues et je lui ai dit « Moi, je suis immunisé. » Et de quoi suis-je immunisé ? De la croyance que ça va aller mal. Et c'est ça le pouvoir divin de nos intentions. La maladie est notre choix, à un niveau bien sûr inconscient, sinon personne ne choisirait ça. Hein. S'il y en a un qui est pas d'accord... qu'il me le fasse savoir, un choix pour faire certaines expériences, en tirer certaines conclusions, en particulier vivre l'état de limite, de vulnérabilité du corps. Et puis, lorsque je choisis de plus en plus d'amour pour moi-même, eh bien, je choisis de faire monter le niveau d'invulnérabilité, de baisser le niveau de vulnérabilité ou de croyance que je peux souffrir ou que je peux être malade ou qu'il peut m'arriver quelque chose. Et donc je me rapproche de l'état de Dieu, de l'état inchangeable, invulnérable, non limité. Et donc plus je crois en l'amour pour moi-même et par conséquent pour le rayonner tout autour de moi, et plus j'augmente mon système immunitaire. J'ai en fait une sorte d'immunité diplomatique, hein, parce que je suis venu sur Terre avec ma valise diplomatique, en tant que messager du divin. Et dans cette valise, j'ai certaines croyances que je suis limité, et puis petit à petit, je peux défaire l'ego, défaire les croyances, un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou complètement. Hein. Et c'est un peu ça le but de l'existence terrestre. Partir d'un niveau de croyance extrêmement, qui se sent extrêmement vulnérable et sensible, en fonction des expériences précédentes que j'ai pu avoir, et arriver jusqu'à un niveau d'amour tel, intérieur, que ça vibre tellement fort dedans que les vibrations basses des microbes, virus, bactéries, ou même fausses croyances n'ont pas d'effet pour baisser ce niveau de vibration. Alors, en vérité, il m'arrive d'être un petit peu malade. Et quand je dis un petit peu malade, c'est je sens des petits symptômes de grippe qui s'effacent généralement en 2-3 jours. Là où avant, j'avais de la fièvre, j'avais un gros mal de gorge, où je devais m'aliter, où j'avais des grosses angines à répétition. Donc, moi je trouve ça très intéressant, hein, de mettre ça en relation avec mon niveau de croyance en la vulnérabilité. Donc, si je suis malade, à un endroit ou à un autre, il y a une brèche dans mon immunité, hein, dans le fait que je suis un représentant de Dieu et je porte son héritage dans le sens, dans le terme, des termes de inchangeable, invulnérable, illimité, omnipotent, omniscient, omniprésent. Et nous l'expérimentons apparemment graduellement, hein, puisque nous vivons le temps et nous vivons que certaines expériences ont une certaine progressivité ici. Donc voilà, je peux, en renforçant l'amour que je me porte à moi-même, en renforçant mon estime personnelle, en me rappelant que je suis une expression du divin qui fait un voyage spirituel sur Terre. Je suis un être spirituel qui fait un voyage humain, plutôt, sur Terre. En me rappelant ça, en expérimentant le véritable pardon, c'est-à-dire « Ah oui, en face de moi, toi, tu voudrais que je croie que tu m'as fait quelque chose qui m'a fait mal ou qui m'a fait blesser, mais en fait, non, 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 je ne marche pas. Je me pardonne de croire des choses folles et je te pardonne pour les rôles que j'ai pu te faire jouer. Et tout est joyeusement vu tel qu'il est, c'est-à-dire simplement des prétextes pour pardonner et pour choisir l'amour et pour voir l'amour là où il est maquillé, travesti, déguisé en forme qui nous semble bizarre ou appelée notre réactivité. Donc moi j'ai un rituel, chaque fois que je rentre dans un début de réactivité, je vois l'autre en face. S'il est déjà parti, je le visualise. Et c'est très rapide, hein, comme disait Gary Renard. Avant, quand je devais pardonner, ça prenait 30 ans, maintenant 30 secondes. Donc je pouvais garder une rancune pendant 30 ans et m'empoisonner avec, littéralement, dans le sens propre du terme, puisque je génère des substances dans mon corps qui font que je me sens mal, hein, je rentre dans perpétuer la souffrance, c'est-à-dire que la souffrance est partie, l'événement initial n'est plus là, mais moi je le rappelle aujourd'hui, je le rappelle demain dans ma mémoire, et je revis l'émotion, et je revis la souffrance, je le rappelle après-demain, dans un mois, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, Et je me dis, allez, encore une petite couche de souffrance. Ben oui, c'est vrai, t'as oublié déjà. Donc, encore une petite cutie de rappel que tu peux souffrir. Et donc, moi, je visualise cette personne. Je la visualise en train de rire, en train de me dire, ha, ha, avis, c'est bien eu, hein. T'y as cru à mon truc. T'y as cru à mon scénario. Hein, t'y as cru que je pouvais te faire du mal. Te faire blesser. Puis là, on se prend dans les bras. Et on rigole ensemble de la situation. Et c'est terminé. Et je termine par, et nous sommes tous les deux pardonnés, hein, d'avoir cru à ce... Voilà. C'est quelque chose qui fonctionne pour moi parce que ce n'est pas juste une recette miracle, hein. Ça peut ne pas marcher. C'est parce que dans les coulisses, je vois ce frère ou cette sœur comme un être d'amour. Hein. Je le vois comme étant incapable de me blesser, incapable de me faire du mal. Comment pourrait-il me faire du mal alors que je suis de nature divine, inchangeable et invulnérable? Je peux seulement y croire. Hein, quand j'enlève la croyance, j'enlève la souffrance. C'est ça l'immunité. Hein, je suis dans une immunité diplomatique, c'est-à-dire que on peut essayer de me faire des procès d'intention, mais ça ne marche pas, ou ça marche pendant quelques secondes, le temps que je me rappelle qui est l'autre et qui je suis. Voilà, c'est mon... Et je vis ça régulièrement, hein, ça ne veut pas dire que je ne réagis plus du tout, mais je me dis, ah tiens, la vie, qu'est-ce que c'est que cet inconfort-là? Et si c'était encore une occasion de pardonner, hein, allez au boulot, appelle l'esprit, et puis on fait ça ensemble, hein. Voilà, il n'y a aucune raison que ça m'empoisonne plus longtemps. Et je me rappelle dans le passé que quand je faisais la tête à quelqu'un, ça pouvait durer des mois et des mois et des mois. Et que je me rappelle aussi que je me rappelais de ne pas oublier la raison de la rancune, que je me faisais des cuties de rappel, même lorsque la raison était loin dans le temps. Et donc, avec le recul, je vois que c'est de l'auto-alimentation, c'est-à-dire que ça se passe de mois à mois, et à tout moment, comme dit l'autre, je m'arrête quand je veux. Hein, je m'arrête quand je veux de m'auto-empoisonner. Et quand je vis une expérience et quand je prends enfin conscience, le jour béni où cette conscience arrive, que je ne fais pas de mal à l'autre avec cette rancune, mais à moi-même, alors je peux choisir la paix au lieu de cela, comme dit la leçon 40 d'un cours en miracle. Chaque fois que je suis agité, chaque fois que je suis réactif, chaque fois que je suis malheureux, malheureuse, c'est que j'ai pas choisi la paix dans ce moment-là. Alors, la paix, c'est qui je suis, hein, tout le temps, en permanence. Mais je l'oublie, hein, j'oublie de la choisir. Et je fais jouer à l'autre des rôles qui m'entraînent dans des choses intérieures compliquées. Et rappelez-vous que quand quelqu'un vous agresse, c'est une façon déguisée de dire « aime-moi ». Parce qu'il est tellement... Il se sent tellement coupé de sa source d'amour qu'il ne peut pas vraiment dire « t'as pas vu à quel point j'ai besoin d'amour ?» Alors il agresse. Hein? Alors sa manière de demander l'amour, c'est de faire en sorte que vous ne puissiez pas rater sa manifestation. Elle est tellement... manifeste, elle est tellement dirigée que vous ne pouvez pas la rater. Et donc, c'est un « aime-moi parce que tu vois à quel point c'est difficile ». Et plus une personne souffre, et plus elle a besoin de notre amour. Elle n'a pas besoin qu'on lui rajoute une couche de... ce qui la coupe. de sa source d'amour. Donc, lorsque ça se passe, généralement, pour ne pas entrer dans la réactivité, ce qui peut être la tentation, quand ça se passe, moi je garde le silence. Je me rappelle que c'est l'ego qui parle en premier, et je me rappelle que dans le silence, l'ego est invité à se tranquilliser, et le baril de poudre qui est prêt à exploser, il est invité à s'éteindre, hein, à ne pas entrer en éruption. Et je le fais juste avec ma conscience. Hein. Je ne peux pas forcément envoyer de l'amour tout de suite, mais j'arrête d'entretenir la réactivité de l'autre par ma propre réactivité. Oui, bah tu m'en veux, oui, d'accord, bah ok, c'est ce que tu vis maintenant. Oui, pour toi je suis atroce, abominable. C'est ton sentiment, c'est ta perception. Oui, je cautionne pas ça, mais je peux accepter que c'est ce que tu vis maintenant. Et ça ne m'empêche pas de te chérir. Ça ne m'empêche pas de te considérer comme d'une valeur infinie, hein, en tant qu'être divin. Et je pourrais, lorsque le moment sera venu, te rappeler que je n'ai pas pris les paroles que tu m'as adressées comme personnelles, mais simplement comme des manifestations de l'amour dont tu as besoin et que tu peux exprimer seulement de cette manière à cause de cette coupure que tu ressens, ce manque que tu ressens à l'intérieur. Vous ne pouvez pas blesser quelqu'un s'il n'y a pas de manque à l'intérieur. C'est pas possible. Si vous êtes plein d'amour, quel besoin avons-nous de juger? Quel besoin avons-nous d'agresser? Si nous sommes pleins d'amour, nous n'avons qu'une envie, c'est d'ouvrir les bras et d'accueillir qui que ce soit. Et donc toute maladie est une maladie d'amour, parce que c'est la croyance qui peut m'arriver quelque chose, et donc une coupure de l'endroit où je suis connecté à ma source d'amour. Et toute agression est le résultat d'une croyance que je suis séparé de l'océan d'amour. Voilà, je peux croire à ça, et à un autre moment, je peux enlever ma croyance et croire à autre chose. C'est la belle leçon, hein, que je tire de notre existence d'humain dans le rêve, qui peut parfois devenir un rêve réellement heureux. Maintenant, dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle aube terrestre, la leçon, c'est que comme j'y ai cru, à tout moment, à chaque seconde, j'ai le loisir d'avoir une autre croyance et tout basculer, tout renverser à n'importe quel moment. Certains rapportent que l'ego peut se réveiller entre deux pensées. C'est pas un état sans pensée tout d'un coup, au milieu de deux pensées. Voilà, ça peut se passer simplement quand je suis disposé à croire que je suis un être d'amour divin. Hein? Voilà. Et tant que je ne le suis pas, alors je peux me pardonner véritablement de cette pensée fausse qui a choisi de résider dans mon esprit, que j'ai choisi d'adopter jusqu'à ce que je la trouve obsolète. Hein? C'est ça notre chemin de vie. Décroire, défaire des choses que j'avais cru justes et qui maintenant résonnent comme des vieux fonctionnements qui n'ont plus aucun sens, qui sont juste des grandes blagues cosmiques, hein, juste des choses que si réellement je voyais de quoi était question, je ne pourrais répondre que par un grand éclat de rire. Et c'est vraisemblablement comme ça que la dualité pour moi, en tant qu'humain, hein, pour nous, se terminera, hein, par un grand éclat de rire, hein, parce que C'est chapeau, hein. Chapeau, comment nous avons orchestré ce jeu, ce rouage complexe, tellement bien fait qu'on jurerait que c'est vrai. Et que nous avons mis un niveau de croyance maximal dans cette illusion. Hein. Et notre jeu humain, c'est de défaire les croyances, hein, une par une, couche par couche, et surtout la croyance première que nous ne sommes pas dignes d'amour pour un bon nombre de nos frères et sœurs. J'ai parlé.
Merci, Avi. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit sur le système immunitaire et ce que disait Crayon au début des années 90 par rapport au nouveau qui était annoncé avec l'avant-dernière mesure qui avait été faite sur l'état de conscience planétaire en 1987, avec la dernière mesure qui devait être faite en 2012, et c'était la dernière, correspondait effectivement à la fin du calendrier Maya, le 21 décembre. Et ça a trait au nouveau. Et Crayon nous disait, dans les débuts des années 90, que l'énergie du 2, l'énergie sur laquelle a fonctionné cette planète après la chute de l'Atlantide, il y a 9000 ou 15000 ans, selon les dires des uns et des autres, eh bien, nous avons vécu en survie avec l'énergie du 2, qui est l'énergie symbolisée par le système immunitaire, effectivement. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'ennemi pour un certain organisme, l'ennemi est identifié et il est neutralisé. Et maintenant, nous passons à l'énergie du 3, qui est l'énergie du nouveau, et je dirais avec mes mots une énergie amoureuse, où l'ennemi est identifié, l'ennemi entre guillemets, il n'y en a pas, mais justement c'est ce qu'on va voir, donc il y a apparemment dans l'apparence, dans cette dualité apparente, un ennemi, des bactéries, des cellules qui se développent d'une manière prolifique en faisant des cancers, par exemple, des choses comme ça, ou enfin tout autre type de manifestation physique, ou émotionnelle d'ailleurs. L'ennemi, ou ce qu'on considère comme un ennemi, est identifié et il est accueilli. C'est l'énergie du 3. Et quand on dit qu'il est accueilli, ça veut dire qu'il est aimé, il est absorbé. Il n'est pas jugé. Je ne peux pas aimer quelqu'un si je juge. Donc l'énergie du 3, c'est l'énergie du nouveau. C'est l'énergie de ce troisième millénaire. Cette énergie de cet éveil de conscience. C'est l'enfant de l'amour, c'est la manifestation du nouveau. Cette manifestation du nouveau, elle est planifiée dans le plan divin depuis l'origine des temps, avant l'origine des temps. Et Avi, tout à l'heure, nous a parlé aussi du message de Saloussa avec nos frères de l'espace. Et ça va être l'heure comme... grâce à Internet d'ailleurs, puisque nous avons l'information de plus en plus rapidement, qui est partagée avec tous ceux qui sont intéressés, qui se branchent extrêmement rapidement. C'est d'ailleurs une révolution par rapport à il y a 10-20 ans, c'était impensable. Et donc le corps qui est en train de vous parler là, maintenant, est venu dans ce monde en pleine guerre mondiale, et très exactement le 15 août 1940 à 9h du matin, à Biarritz. La France était coupée en deux. C'est l'heure maintenant de dire franchement les choses, de passer au-delà des apparences, au-delà de l'âge du corps, au-delà des conditionnements, au-delà des sexes, au-delà de toutes les formes, en n'accueillant et en aimant encore davantage toutes les formes, tous les conditionnements, tous les âges, toutes les émotions, toute la matière, toute cette expérience que nous vivons ensemble. Nous étions à l'époque peu nombreux à nous incarner en provenance d'autres dimensions, d'autres galaxies, d'autres systèmes solaires, etc. C'est quelque chose que ce corps-là qui vous parle avait déjà fait souvent, et en particulier il y a 2000 ans, et avant, et très souvent. C'est pas mieux ou moins bien. Nous avons par exemple l'exemple d'Inelia Benz, qui s'incarne une demi-heure avant la sortie du corps de la matrice de sa mère. Et donc il vit une expérience particulière et qui vient ici pour aider la planète à évoluer en conscience. Donc nous avons, par exemple, Inelia Benz, qui a une expérience tout à fait particulière, bien dans le plan divin. Et puis nous avons, par exemple, Jésus qui dit, bien sûr, je me suis incarné avant d'être venu il y a 2000 ans, c'était ma dernière incarnation, et je me suis incarné même souvent avant, et c'était nécessaire dans le travail que je faisais. Et nous sommes très nombreux à parler de la même chose. Et puis on nous parle d'êtres qui viennent, qui sont plutôt terrestres, qui sont de la Terre, et puis un certain nombre qui sont extraterrestres et qui sont incarnés spécifiquement pour aider cette planète. Donc il y a apparemment un paradoxe parce que la clé, disons, pour aborder ça, c'est une clé d'amour, c'est une clé d'unité absolue, c'est une clé amoureuse, c'est une clé de l'égalité absolue entre nous tous. Être pratiquement jamais incarné, très souvent incarné, avec telle ou telle expérience d'âme, il n'y a que Dieu, Dieu est tout ce qui est. Et donc il y a un fantastique jeu qui est joué, et il y a un paradoxe, parce que ce jeu est joué avec une multiplicité infinie, c'est le multiple, des expériences incroyables, des univers multidimensionnels pratiquement infini, un univers gigantesque, encore une fois avec quelques chiffres qui situent bien les choses, où dans notre simple galaxie il y a 240 milliards d'étoiles, c'est-à-dire des systèmes solaires, dans notre galaxie unique et une, et dans cet univers visible, d'après ce qu'on peut calculer, voir avec nos moyens, sur 14 milliards d'années-lumière, eh bien, des galaxies comme la nôtre, il y en a 350 milliards. Donc c'est absolument vertigineux, impensable, inimaginable pour le mental. Et tout ça, c'est un. Et donc le jeu est incroyablement complexe, infiniment varié, multidimensionnel, insaisissable par le mental humain. Et nous sommes là, avec des rôles différents, à vivre des expériences particulières. La seule réalité de ces expériences, c'est qu'elles sont appelées à être de plus en plus amoureuses. Il n'y a que ça qui a un sens. Pourquoi ? À cause de la réalité de ce qui est éternel, immuable. À cause de la réalité de Dieu. Tout à l'heure, dans les sujets que Avi proposait, il a parlé justement du sens du mot Dieu. Évidemment. Si évidemment Dieu c'est, comme nous disent les religions, quelque chose à atteindre à l'extérieur, évidemment c'est pas de ça dont nous parlons, pas du tout. Dieu c'est un mot, comme tout autre mot, l'esprit c'est un mot, et les mots sont duels. Donc le mot Dieu est duel, c'est-à-dire qu'il fait référence à un passé, à un apprentissage dans la dualité. En réalité, évidemment, Dieu, ou ce qui existe, qui est éternel, est au-delà de tout mot, au-delà de toute forme, au-delà de tout ce que peut en dire. C'est pour ça que, au départ, dans l'islam, c'est devenu une défense, c'est devenu un interdit, mais au départ, c'était parce que ça n'avait pas de sens, on ne pouvait pas dessiner Dieu, ou représenter Dieu. Non, ça n'a pas de sens, on ne représente pas l'infini. Or, l'infini, c'est qui nous sommes. Et donc, nous ne sommes pas le corps physique. Et puis en même temps, il y a un plan. Et il y a un plan avec des révélations particulières dans certains ordres de réalité et en particulier celui dans lequel nous sommes, ici les 7 milliards que nous sommes sur cette planète, avec aussi beaucoup d'êtres extraterrestres et intraterrestres. J'ai reçu l'information qu'ils sont un peu plus de deux fois plus nombreux que nous, ceux qui s'occupent d'aider directement la planète. C'est-à-dire, ça fait plus de 15 milliards d'êtres extraterrestres. Ces êtres ont une vision que nous n'avons pas, et ils nous appellent. Mais ils nous appellent quoi ? Dans l'amour. Ce sont des frères. Alors on va dire des frères et des sœurs, etc. C'est, oui. La multiplicité des mondes est vertigineuse. Mais la multiplicité de l'amour n'est pas vertigineuse, elle est une. Il n'y a pas de multiplicité, il y a l'amour. Et c'est ça qui nous relie, c'est ça qui a un sens. Et l'amour, c'est qui nous sommes. Alors évidemment, on peut décrire des vies. Et je voyais ce matin, passer rapidement, je voyais le petit enfant qui vous parle là, qui voyait pendant cette guerre, dans une propriété en forêt de Marly, à côté de Paris, des avions tombés en flammes, en 1943-44. Je vois ce petit enfant au pied de l'Arc de Triomphe, le soir de la libération de Paris, dans une petite voiture avec un trou, troué par une balle d'ailleurs, qui était là, et qui ce soir-là s'est couché à minuit moins 25, le petit enfant qui était émerveillé. Il a passé la guerre en s'émerveillant. Une guerre qui a fait 60 millions de morts. Mais ça a été une joie de voir les conserves qu'on faisait, les tickets de rationnement. Et puis ensuite, des déplacements. Passer à côté de ce qu'on appelle la mort du corps physique ou au service militaire dans une Dauphine, une voiture. Un accident qui devait avoir lieu où on voit la rambarde qui passe à gauche. Et puis la voiture qui se met sur deux roues, qui repart à droite, et on voit l'herbe de la droite de l'autoroute qui défile, et puis, et en dernière seconde, tout ça en quelques secondes, et puis tout d'un coup, le poids lourd qui dépassait l'autre, qui avait bloqué le chemin, qui se remet derrière, et la voiture passe, et on entend une voix qui dit « c'est comme ça qu'on se tue ». C'était 1964. 3 ans plus tard, dans le Fujiyama à Tokyo, encore ce corps qui est là, dans une voiture, qui descend à plus de 100 à l'heure, à flanc de coteau du Fujiyama, et là débouchent deux camions qui se dépassent. Et là, on appuie sur le frein, on sait qu'on n'a aucune chance, et que c'est la fin. Et donc, c'est très calme, on regarde ça. Et puis, encore une fois, les poids lourds se rangent, on va toucher simplement une roue arrière du camion avec la plaque minéralogique avant de la voiture. Et puis, 3 ans plus tard, au Ghana, en Afrique, dans une Mercedes, acheté un colonel de l'armée du Ghana, repeint en blanc. Il y a, avec à l'époque, c'est 1970, un lecteur de 45 tours, il n'y avait pas de ni, il n'y avait pas de CD, c'était des disques 45 tours, et il y avait donc une musique amoureuse. Et donc il y avait un jeu dans la voiture, on était à 120 à l'heure là, j'étais seul dans la voiture. Et puis je suis arrivé sur le rond-point du périphérique, une sorte de périphérique autour d'Accra, beaucoup trop vite pour tourner. Si je tournais, la voiture se retournait. Donc, instantanément, je traverse le rond-point avec la voiture. À peu près à 120 à l'heure, la voiture passe très calmement le rond-point, je m'arrête, je recule et je vais regarder. Et je vois que j'étais passé à côté d'une énorme fosse de 3 mètres de profondeur qui était creusée dans le rond-point. Et que si j'avais été légèrement plus à droite, je me serais écrasé dans la fosse. Et je peux continuer comme ça longtemps, parce que c'est ce que je raconte là, c'est notre histoire à tous. On a l'impression que les événements sont au hasard. Il n'y a pas de hasard. Nous ne sommes pas le corps. Nous allons vers des choses nouvelles en 2013, là maintenant. Des guérisons nouvelles, des manières d'être ensemble nouvelles. Nous allons, tout à l'heure nous parlions justement avec Avi parlait du pouvoir que nous reprenons. Et c'est un pouvoir d'amour, c'est un pouvoir au service du plan divin. Plan divin, et tout était prévu à l'infini depuis l'origine des temps. On peut dire que le scénario est écrit. Et puis en même temps, on peut dire qu'on change de scénario. C'est les deux à la fois. On peut dire que le changement que nous effectuons est déjà écrit. Et que cette invitation à choisir, à rechoisir l'amour plutôt que la peur, ou plutôt que la culpabilité, ou le doute, eh bien c'est déjà écrit dans le scénario. C'est pour ça que quand on voit un frère ou une sœur qui n'a pas envie, qui doute, qui veut s'accrocher encore au passé, à l'illusion, à la séparation, eh bien, c'est justement l'énergie du 3, c'est l'amour. C'est pas la critique. C'est pas le système immunitaire, c'est pas je me protège. C'est je le prends, je le prends, je l'embrasse. Je l'aime. Il est moi, elle est moi, il ou elle. C'est l'énergie amoureuse. Et on va vers des choses extraordinaires, on va vers des nouvelles guérisons, on va vers des rajeunissements, on va vers quoi ? Vers le service du plan divin avec tout ce qu'il faut pour remplir très exactement son rôle. Ça transcende tout attachement. Ça transcende toute récupération personnelle. Et en particulier, l'attachement au corps. Le système immunitaire, et c'est ce que nous disait Crillon dans les années 90, il va encore mieux fonctionner qu'avant. Même si nous comprenons maintenant que nous sommes au-delà du système immunitaire. Mais justement, quand on produit annexe, il fonctionne encore mieux. L'abondance, c'est pareil. Nous apprenons à être au-delà de tout besoin concret, une certaine somme, une certaine maison, une certaine voiture, une certaine relation. Et en même temps, les sommes, l'argent va être abondant. Les voitures, le luxe, mais un luxe, on va dire plutôt un confort, pas un luxe tapageur. Un confort, un bien-être, une beauté. Oui, ça va être encore beaucoup plus fort qu'avant. Ça vient en produit annexe. En produit annexe de quoi ? Merci pour le gong. Ça vient en produit annexe, on va répéter ça. En produit annexe de quoi ? D'une expression d'amour. Et l'amour n'a pas de limite. Alors c'est vrai que nous sommes appelés les uns les autres à vraiment lâcher. Et que par moments, ça peut nous paraître très difficile. Le rire, c'est que nous ne vivons que l'instant présent. Et qu'effectivement, on ne peut pas y arriver avec le jeu que nous avons choisi de jouer. Donc cette sensation que nous avons tous à certains moments de ne pas arriver à ce que nous voulons, c'est tout à fait normal puisque nous avons choisi ce jeu d'ego. C'est-à-dire une séparation à qui nous ne sommes pas, identifié à qui nous ne sommes pas. Et qui nous ne sommes pas, c'est ce petit être dérisoire qui doit faire des choses qu'il ne peut pas faire. Qui est isolé dans un monde et qui croit qu'il a une petite force qui est personnelle, on lui a appris à se battre, à acquérir un peu de valeur. Mais on a oublié que cet être à qui on apprend à se battre est divin, il est tout. Mais il va vivre ses croyances et on lui inculque la croyance de se battre. Donc on lui inculque la croyance qu'il y a des ennemis, qu'il y a des manques, qu'il y a des doutes, qu'il y a de la culpabilité, qu'il a mal fait. Et il y croit. Résultat, il vit ses croyances parce qu'il est divin. Et ça, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas y échapper. Donc c'est ça le défi fantastique que nous avons oser jouer, et ceux qui se sont incarnés pour venir aider cette planète savaient très bien ce qu'ils faisaient. Donc on a choisi d'aller se droguer une fois de plus, d'aller épouser ces croyances à la séparation. Et donc cette impression d'être malade, cette impression d'être coupable, de ne pas réussir, d'avoir des besoins qu'on ne peut pas satisfaire, d'être jugé par les autres, de manquer d'amour, de ne pas arriver à donner d'amour ou à en recevoir. Ça fait partie du jeu de l'ego que nous avons choisi de jouer. Et il est fondamental de le reconnaître au sens de l'accueillir parce que c'est ce que nous avons vraiment voulu. Qu'on le veuille ou non, et je parle ici au nom des 7 milliards que nous sommes sur cette planète. Et alors que je suis en train de parler, je sens cette présence amoureuse de nos frères de l'espace d'autres dimensions. Et je sens une réjouissance. Et là, je c'est drôle, c'est comme si j'entends de nouveau, oui, c'est pas au hasard que Avi a fait sonner le gong. Parce que ce qui est dit là, c'est pas n'importe quoi. C'est des mots, bien sûr. Ça plaît à certains, ça plaît moins à d'autres. Ça touche le cœur de certains, ça touche pas le cœur d'autres. C'est ok. Mais c'est là. Et 2013, c'est vraiment l'heure de la manifestation concrète du nouveau monde. Oh, ça va prendre du temps. Mais c'est déjà là, c'est là maintenant. Là, nous sommes aujourd'hui le 5 janvier 2013. Et c'est là, c'est maintenant, ce 5 janvier, ça commence. Et demain, on va être le 6, et ça sera encore là que ça va commencer. Et le 7, ça va encore être là que ça va commencer. C'est toujours maintenant. C'est toujours maintenant l'heure de l'amour, c'est toujours maintenant l'heure de s'ouvrir, d'ouvrir le cœur, d'accueillir, d'aimer, d'être amoureux, de tout, tout sans exception. Alors, évidemment, on sort dans la rue, on écoute les conversations téléphoniques, les conversations entre les gens, la publicité, ce qui est conseillé. Et on peut être horrifié de voir ce monde mercantile, ce monde qui tout le temps appelle à gagner, à se protéger, à se sécuriser, à essayer de prendre. Mais nous sommes maintenant dans l'énergie du 3. Donc c'est une énergie amoureuse. Et au lieu de se révolter ou de dire « mais ça va pas », on dit « mais quel jeu merveilleux ! C'est fantastique ce qu'on a pu imaginer. On a tous choisi ce jeu de la séparation, c'est remarquablement bien fait. » On a vraiment l'impression d'être victime, de ne pas y arriver. Et donc, nous sommes dans l'énergie du 3, c'est cette énergie amoureuse. Et parce qu'il n'y a que l'amour, le reste est imaginé. Donc le doute, la peur, la culpabilité, c'est imaginé, le manque est imaginé. La maladie est imaginée, elle est vécue comme réelle, bien sûr. Encore une fois, sur les paquets de cigarettes, il y a marqué « fumer tue ». Effectivement, on constate les statistiques qu'il y a davantage de cancers chez les fumeurs. Mais parce qu'on y croit. Et donc l'énergie du 3 devient une énergie fondamentale. C'est cette énergie amoureuse qui permet de transcender tout, y compris le système immunitaire. Et, aux surprises, le système immunitaire, à ce moment-là, va encore mieux fonctionner. Et donc toutes les lois physiques vont encore mieux fonctionner. Parce que nous commençons à comprendre que nous ne sommes pas dépendants des lois physiques que nous avons nous-mêmes imaginées. Nous sommes les créateurs de ça. Et nous sommes sous quelle loi ? Les lois divines, la loi divine qui est la loi d'amour, c'est tout. Il n'y en a pas d'autre. C'est une clé, c'est la clé. Elle est totalement universelle. Elle est pour tous les problèmes. Le cours au miracle, on m'a dit, j'ai reçu et je ne demande pas de me croire. Je dis ce que je dis parce que je parle aussi avec des informations que j'ai reçues. Je ne dis pas qu'elles sont vraies ou pas, je dis que je les ai reçues, c'est tout. Que quand je me suis incarné, j'étais déjà au courant du courant miracle. C'était pendant la guerre de 39-45, d'accord. Mais il n'y a pas de temps dans la multidimensionnalité. Donc tout est là. Et dans le courant miracle, il y a deux leçons. Il y en a 365 leçons dans le cas d'exercice pour les étudiants. La 179 et la 180 sont les leçons sur nos problèmes apparents. Elles se suivent. Et la 179, c'est « Laisse-moi voir mon problème pour qu'il soit résolu. » Et la suivante, celle du lendemain, c'est « Laisse-moi voir mes problèmes, laisse-moi voir que mes problèmes sont résolus. » La première, 79, laisse-moi voir mon problème pour qu'il puisse être résolu. En fait, des problèmes, je sens en avoir des milliers. Et en fait, il n'y en a qu'un seul, c'est cette croyance à la séparation. Cette croyance à l'ego, au manque, à la séparation. À qui je ne suis pas. Qui nous ne sommes pas. Et la 180, celle d'après, c'est laisse-moi voir que mes problèmes sont résolus parce que, puisque mes problèmes viennent de ma croyance à la séparation, et puisque la séparation est impossible, j'ai pas de problème. Je semble en avoir. Mes frères et sœurs semblent en avoir. Même par moments, ça me paraît très, très réel. Comme je disais tout à l'heure, l'illusion est très bien faite. Mais maintenant, nous ne changeons plus d'avis. Nous sommes dans l'énergie du 3 et nous ne changeons plus. Nous repartons plus dans l'énergie du 2, c'est-à-dire l'énergie de la dualité, l'énergie de la croyance à la séparation. Ce monde duel va continuer à fonctionner, bien sûr, plus que jamais. Il va devenir encore plus beau, plus extraordinaire. C'est pour ça que le cours nous parle d'un rêve heureux et que nous allons vers un rêve heureux. Mais c'est encore un rêve. La dualité est un rêve, c'est imaginé. C'est imaginé, ça peut être imaginé à l'infini dans des mondes incroyablement beaux. Ce sont des rêves, mais c'est un terrain de jeu, un bac à sable dans lequel nous sommes et nous, qui est cet univers incroyable. Et nous allons effectivement, après cette expérience terrestre, vivre encore d'autres expériences multidimensionnelles dans d'autres mondes, si nous avons envie et comme nous en avons envie, parce que nous sommes maîtres. Nous avons toujours été maîtres à bord. Nous avons simplement choisi de prendre le risque de l'oubli en plongeant dans cette dualité. Et nous l'avons fait en pleine connaissance de cause. Pourquoi ? À cause de qui nous sommes. Il ne pouvait pas en être autrement. Dieu est Dieu, il n'y a aucune faille dans l'amour, il n'y a que l'amour et rien d'autre. Et c'est qui nous sommes. Donc, à l'origine des temps, d'un temps illusoire, quand nous avons choisi ce jeu, qui est un jeu qui n'est pas un jeu temporel, c'est un jeu de croyance, eh bien, nous l'avons fait en pleine connaissance de cause, en sachant qu'il ne pouvait rien nous arriver. Parce qu'on ne peut pas ne pas être qui nous sommes. Alors c'est ça, 2013. C'est maintenant que nous commençons à partager ça beaucoup plus ouvertement qu'avant. Avec un amour, avec un amour d'enfant, avec des relations amoureuses d'enfant. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne juge pas. L'enfant ne juge pas, il ne juge rien du tout. Il accueille. Et quand je vous ai dit que j'ai passé... mes premières années dans cette guerre de 60 millions de morts, j'ai passé des années très heureuses, merveilleuses, à être effectivement stupéfié par le monde, par des choses qu'on me demandait. Ou par exemple, je me fais écraser par deux bicyclettes, j'ai à peu près 2 ans, et puis je joue, et puis deux bicyclettes me tombent dessus. Évidemment, les adultes autour se précipitent pour me relever, etc. Et me disent, mais faut pas faire ça, faut pas jouer. Et moi, je suis étonné de voir ça. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Je joue. Et puis voilà, une bicyclette me tombe dessus. Bien sûr, l'enfant de 2 ans ne raisonne pas comme ça, mais profondément, l'âme, oui. Donc, il y a à chaque fois ce jeu de... Vous comprenez, si vous suivez... Si vous regardez votre expérience à vous en entendant ces paroles, vous, dans votre monde, dans votre expérience, qui est parfaite, qui est totalement unique, vous allez trouver exactement les mêmes choses, les mêmes similitudes. Et vous allez trouver aussi cet appel permanent à l'amour, aux relations amoureuses, au non-problème, à la non-dualité. On nous dit on sauve des vies par des radars, par etc. Tout ça, vous savez très bien que c'est le monde de l'ego et que notre âme profonde qui a choisi de s'incarner choisit très exactement le moment où elle va laisser le corps, que ce soit par un accident de voiture, une maladie ou simplement une crise cardiaque ou autre chose. En plus, à partir de maintenant, je dis bien à partir de maintenant, nous allons être de plus en plus nombreux à choisir consciemment de quitter le corps dans un grand éclat de rire, parce que nous vivons la justesse des choses. Et nous vivons le fait que chaque jour que nous vivons est parfaitement juste. C'est parfaitement juste que nous nous soyons ici chez Avi autour de cette table, dans ce groupe. C'est parfaitement juste après ça que nous fassions autre chose. Et puis le jour où vous sentez dans votre intuition profonde, parce que vous commencez à fonctionner de plus en plus avec votre intuition, quand vous sentez que c'est l'heure de quitter le corps, mais quelle joie extraordinaire. C'est merveilleux, effectivement, c'est juste. Et tout devient joyeux, et tout est joyeux, y compris le dépôt du corps physique, qui est d'ailleurs une expérience extrêmement plaisante, avec une libération du poids physique qui est fantastique. Simplement, cette fois, elle est faite d'une meilleure nouvelle, parce qu'elle est faite consciemment, et elle est faite comme un jeu formidable. Et l'ego est maîtrisé totalement. Et après ça, il y a choix de revenir ou pas de revenir, mais il y a une libération totale. Il y a, on va dire, vécu de la liberté profonde que nous sommes, que nous avons toujours été. Et il n'y a pas un besoin, encore une fois, de surincarner. Quand on dit un besoin de surincarner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce que nous voulons, ce que notre âme veut, parce que notre âme veut apprendre qui est, elle veut retrouver qui elle est. Et c'est pour ça que nos frères et sœurs qui semblent s'accrocher encore à leur voiture, à leur possession, à leur jeu en bourse, etc., eh bien nous les comprenons. Ils jouent un rôle parfait. Parce qu'ils sont nous. Simplement, c'est l'ego. Mais l'ego, nous ne pouvons pas être ici sans ego. Donc nous sommes aussi, on peut dire, c'est une façon de parler, nous sommes un dans l'ego, nous sommes un dans cette expérience humaine. Et quand je dis nous sommes un dans cette expérience humaine, je parle des 7 milliards que nous sommes. Nos amis extraterrestres n'ont pas ce corps, ils ne sont pas sur la planète. Et le fait d'être sur la planète, ça apporte quelque chose. Comme dit Inyaya Ben, ça apporte quelque chose parce que nous sommes reliés les uns les autres. Nous faisons un travail spécifique. Ok, je me suis peut-être incarné, je parle de cet être qui est en train de vous parler là. Et peut-être, mais en attendant, nous sommes là. Et donc nous sommes reliés par des connexions énergétiques subtiles, puissantes. Et nous communiquons entre nous. Donc c'est pas au hasard si on vient justement s'incarner, c'est qu'il y a une raison. Et si Inyaya Ben même est venue s'incarner dans un rôle particulier, assez rare, puisqu'elle n'était jamais venue s'incarner avant, elle a aussi, elle vient s'incarner. D'ailleurs, elle le dit très clairement, comme je suis en train de le dire. Elle le dit à sa façon, moi je le dis à la mienne. Alors vous comprenez que nous commençons à nous émerveiller de cet amour qui nous réunit, où nous commençons à nous ouvrir, à nous donner la main les uns les autres, à nous regarder dans les yeux en disant « mais on s'aime, c'est incroyable ». Nous avons cette chance incroyable de pouvoir faire cette démonstration d'amour dans ce monde très lourd, apparemment très duel, ici sur cette planète bleue. Et c'est pour ça, c'est pour ça que ça émerveille l'univers entier, que ça passionne l'univers entier. Et que ça va permettre de créer d'autres mondes extraordinaires, merveilleux, inimaginables jusqu'ici. Alors bienvenue 2013. Ça suppose effectivement une confiance totale et absolue. Comme dit le courant miracle, seule une patience infinie apporte des résultats immédiats. Mais la confiance, elle est simple. On a confiance en qui nous sommes. On a confiance en Dieu, en la vie, en la lumière, en l'esprit, en qui nous sommes. Le courant miracle où Jésus l'appelle le Christ, c'est un vocabulaire, c'est un mot. Ça veut dire, c'est l'expression de la vie, c'est l'expression, c'est le vivant manifesté. Souvent, on se dit, mais alors quelle est ma mission ici? Elle s'est faite toute seule. Si on voit bien Inyaya Ben, et c'est très intéressant son témoignage, d'ailleurs on peut dire que nous avons tous le même témoignage si nous voulons, parce que nous sommes tous un. Elle dit bien qu'elle fait sa mission, mais elle le fait selon son ressenti dans l'instant, en sachant qu'elle est au service. Et si par exemple elle a à un moment une expérience spectaculaire où elle est appelée à aller voir un être qui apparemment est abject, qui fait des choses absolument atroces, des meurtres d'enfants, etc., des choses épouvantables, en apparence, elle est appelée à aller le voir en non-jugement absolu, neutre, totalement neutre. Et vous pouvez le ressentir au moment où je suis en train de dire ces paroles, parce que, quelque part, c'est votre nature profonde. Donc, nous pouvons cesser de penser que Inyaya Ben ou moi ou d'autres, nous sommes différents. Pas du tout, puisque nous sommes un. D'ailleurs, c'est ce que Niabèze n'arrête pas de dire en disant « Mais tout ce que j'ai, vous l'avez. » C'était aussi ce que disait Jésus il y a 2000 ans, et ce qu'il nous répète actuellement dans les canalisations. Ou dans le murmure qu'il vous fait dans votre âme profonde. Et donc nous sommes un, et nous avons tout en nous. L'éveil, c'est un éveil à qui nous sommes. C'est pas un éveil à quelque chose d'extérieur. C'est pas quelque chose qu'il faut atteindre. C'est pour ça qu'on peut dire d'une certaine manière qu'il n'y a pas d'éveil. Il y a simplement rappel de qui nous avons toujours été. Donc, quand vous vous rappelez qui nous avons toujours été, bien vous voyez tout le monde éveillé. C'est ce qui me fait dire souvent, un éveillé ne voit que des éveillés. Et donc, d'une certaine manière, il n'y a pas d'éveil. Il y a disparition de l'illusion de dormir, c'est tout. Il y a disparition de l'illusion d'être séparé, l'illusion d'avoir des problèmes, d'être menacé, d'être coupable, l'illusion de douter. Et puis les mots s'en vont. Vous savez, comme des feuilles sur l'eau qui s'en vont dans le courant vers l'aval. Et puis reste en vous, vous pouvez le ressentir maintenant dans votre cœur, cet appel à l'amour, cet appel à voir tous nos frères et sœurs dans l'amour, dans les accueillir. C'est l'énergie du 3. Ce 2013-là, plus que jamais, c'est plus que jamais concret, c'est plus que jamais, ils ont diffusé sur la planète, réveillé sur cette planète, cette énergie amoureuse, cette énergie de non-jugement absolu. Passe au-delà des mots, dans la simplicité et la plénitude de l'instant.
Je voulais témoigner en ce qui concerne une émotion, par exemple. C'est très difficile quand on est dedans, de se rendre compte qu'on est dedans, et de prendre du recul et de regarder l'émotion, de prendre de la distance. Et bon, ça c'est ce que j'essaye de faire, mais c'est vrai que quand on est dedans, on n'a pas toujours le réflexe de se dire « je suis dedans » et on continue.
Le courant miracle, ou Jésus dans le courant miracle, insiste bien en disant qu'on ne peut pas le faire seul. Il précise que de l'intérieur du système de pensée de l'ego dans lequel nous nous sommes mis, que nous avons choisi en pleine connaissance de cause, de l'intérieur de ce système, on ne peut pas s'en sortir. Il faut quelque chose d'extérieur qui connaît ce système et qui a aussi la vue de la vérité, la vision de la vérité. Le cours en miracle l'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit que nous sommes, c'est qui nous sommes. Mais nous avons joué un jeu pour s'amuser à oublier ça. Pour nous amuser à oublier ça, Et bien sûr, on ne peut pas l'oublier, mais c'est tellement bien fait que ça semble, il semble que nous l'avons oublié. Et donc, on ne peut pas s'en sortir seul. C'est pour ça qu'on fait des demandes d'aide. Et c'est ça la grosse difficulté de tous ces... C'est pour ça que ça prend 30 ans et qu'on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Et on continue sans se rendre compte à se battre pour essayer d'y arriver. Et plus on se bat pour essayer d'y arriver, moins on y arrive parce qu'on est créateur. Et donc le fait de dire j'arrête de me battre, j'arrête d'essayer d'y arriver, je constate que je n'y arrive pas, que j'ai une vision fausse, c'est tout. Et je suis de bonne volonté pour demander à l'esprit de me donner sa vision. Et là, il y a un passage vers par la confiance absolue. C'est pour ça que le cours en miracles insiste dans le manuel pour les enseignants de Dieu, la troisième partie de ce gros volume, un cours en miracles, au sous-chapitre 4 sur les enseignants de Dieu et leurs caractéristiques, et que la première, c'est la confiance. Et la confiance, c'est quelque chose de fondamental. Alors on peut dire, mais oui, mais d'accord, mais j'ai pas confiance, moi. Oui, effectivement, personne n'a confiance puisqu'on a choisi de s'illusionner. Et donc il y a un mystère là, quelque chose de formidable où, quelque part, quand je décide d'avoir confiance, j'ai confiance pour tous mes frères et sœurs. C'est pour ça que Jésus nous dit dans un cours en miracle, combien il en faut pour sauver le monde, un seul suffit. Et il dit, moi, Jésus, j'ai fait ce travail. Et ça suffit. Alors si vous voulez, donnez-moi la main. Je ne vais pas le faire à votre place, seulement je peux vous servir d'exemple. Un maître est un exemple. Et Nil de Naloage nous dit que le meilleur des maîtres, c'est celui qui fait le plus de maîtres. Mais c'est notre affaire, et personne ne peut le faire pour nous. Et puis en même temps, on va dire que c'est l'esprit qui va le faire pour nous, mais l'esprit, c'est qui nous sommes. C'est ça, ce paradoxe incroyable, c'est que nous sommes en train de rechercher quelque chose que nous avons déjà, qui est notre nature profonde. Et sans nous en rendre compte, nous sommes toujours en train de chercher à l'extérieur, alors qu'il n'y a pas d'extérieur. Et donc on ne trouve jamais, et ça ne marche jamais. Et ça, évidemment, on n'a pas envie de l'entendre parce qu'on a l'impression que ça nous échappe, qu'on n'a aucun contrôle. Effectivement, l'ego, c'est-à-dire cette partie de nous qui croit à la séparation, le petit ego, le petit personnage, là, eh bien, il ne peut pas s'en sortir. Et donc, c'est terrifiant, ça peut être terrifiant, ça peut être très désespérant. C'est pour ça qu'il y a des dépressions nerveuses, des choses comme ça, parce que ça touche à ça. Alors on va dire, mais alors qu'est-ce qu'on va faire pour les dépressions nerveuses, pour nos frères et sœurs, etc. La seule chose à faire, c'est d'avoir la vision juste, qui consiste à dire, mais mes frères et sœurs vont très bien, même quelqu'un en dépression nerveuse, il fait partie, son âme a choisi son expérience, en pleine connaissance de cause, il est dans un processus parfait pour lui, et je le libère. Je le libère dans l'amour, pas dans l'indifférence. Parce que quand on a cette attitude-là, on peut sembler indifférent. Pas du tout. C'est une attitude amoureuse incroyable. Un amour, c'est un amour à l'infini. C'est un accueil infini du chemin de l'autre. C'est un accueil infini de qui est l'autre. C'est pour ça que ce namasté, namasté, ce qui veut dire je reconnais qui tu es, c'est fondamental et que de plus en plus, maintenant, on termine nos mails et tout ça par namasté. Ça veut dire, ok, je peux avoir, vous pouvez vous sentir mal ou je peux moi me sentir mal, mais c'est namasté, c'est je reviens à qui nous sommes. Ça, je ne quitte pas ça, je ne quitte pas. Namasté, tu es l'expression de Dieu, tu es la manifestation de Dieu, comme tout être, car il n'y a que Dieu, rien d'autre. Donc, avec ma croyance à la séparation, je n'arrive pas à m'en sortir. Je demande de l'aide. Par moments, évidemment, je peux m'arrêter complètement, rester fixé à un mur pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, décider de ne plus rien faire dans la journée, ça peut arriver, pourquoi pas. Ça passe par un non-faire, mais ça ne veut pas dire ne pas agir. Je peux être en train de conduire ma voiture et être en non-faire. Je peux être en train de faire n'importe quoi et être en non-faire. Je peux faire la cuisine et faire un non-faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire un non-faire en conscience. Arrêtez de se battre. Je vais quelque part, je suis dans ma voiture, est-ce que je me trompe, je vais voir une personne, est-ce que je suis sur la bonne route? Oui, puisque j'y suis. C'est tout. C'est ça le non-faire, j'ai confiance. et que si je ne devais pas être là, je ne serais pas là. C'est très simple. Hein. Et c'est très simple, et en même temps, effectivement, ça peut paraître très difficile. Parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de « ah oui, oui, mais ». Non, il n'y a pas de « mais », il n'y a jamais de « mais ». Il n'y a pas de « mais » à la réalité. La réalité est infiniment parfaite. Et ça, c'est qui nous sommes.
Je me sens très connectée à ce dont tu parlais tout à l'heure. Et quand tu parles enfin, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as dit tout à l'heure, parce que ça parle exactement de ce que je ressens en ce moment. Ce qui est difficile pour moi en ce moment, c'est que je suis vraiment consciente du plan de... je sais pas si je suis en connexion avec des mondes extraterrestres, mais à chaque fois que tu parles de ça, moi, ça me bouleverse. Donc, je sais pas. Mais là, il y a quelque chose, je sais pas quoi. Je sais pas si j'en viens, je sais pas. Mais c'est étrange. Moi aussi, je sens que j'étais là il y a 2000 ans aussi. Enfin, c'est très clair pour moi. Et voilà, tout ça, je suis très, très en connexion avec ça. Et ce qui est difficile, c'est que du coup, je suis très envieuse en fait des gens qui sont dans l'ego, dans le monde dans lequel on vit, parce que en étant conscient de cette nature-là, eh ben, j'ai vraiment du mal à. En ce moment, j'ai énormément de mal à vivre sur Terre, et j'ai donc du coup même presque des envies parfois de mourir, parce que mon âme, c'est trop difficile pour mon âme en ce moment d'être incarnée. Quoi. Il y a quelque chose qui, je me sens en fait entre les deux mondes, quoi, vraiment. C'est-à-dire que je sens j'ai toujours été dans le monde de l'ego avant, et j'ai toujours été dans la souffrance dans le monde de l'ego. J'ai été révélée il y a 5 ans par... il y a eu un bouleversement, et depuis 5 ans, je suis dans des plans qui sont d'autres plans. Enfin, je suis quand même sur Terre, mais voilà, je suis en contact avec vraiment d'autres plans. Et en même temps, je me situe vraiment entre les deux, je trouve ça difficile. Quoi. Je suis toujours à aller dans l'un ou l'autre et à jamais savoir. Donc des fois je renie, je me dis non, je ne lis plus jamais de texte spirituel, c'est fini, j'arrête tout. Et puis voilà, après je sens le manque, donc du coup je repars. Enfin, je me sens vraiment un peu les fesses entre les deux mondes, et pour l'instant comme s'il y avait un peu une coupure en fait, et que moi en tout cas c'est comme ça que je le vis pour l'instant. Comme s'il y a une forme de coupure comme ça entre deux plans, enfin, c'est l'image que j'ai là, et que j'arrivais pas à... Enfin, il y a une connexion qui est difficile, j'arrive à la faire quand même, puisque je suis là, et que voilà, mais c'est laborieux, quoi. C'est laborieux. C'est laborieux, voilà. Mais bon, je vais y arriver. Voilà, merci.
Merci Estelle, merci pour ton témoignage. Et j'ai été très touché par ton émotion quand tu as parlé de cette notion extraterrestre et puis ta sensation par rapport à il y a 2000 ans. Quand il y a ces phénomènes-là, avec une forte émotion, des envies, des larmes, etc., c'est quelque chose qui est très authentique. C'est pas forcément une preuve, mais c'est quelque chose qui montre qu'on touche à quelque chose d'authentique. Parce que de qui on parle, puisqu'on est tous un. C'est pour ça que même si on peut se tromper en disant « Tiens, je crois que j'ai joué tel rôle dans le passé, parce que je ressens, par exemple, telle énergie, Marie-Madeleine ou autre, ou Truchot ou quelqu'un d'autre. » Quelque part, c'est juste. Parce que nous sommes un. Et donc, on peut très bien capter ou ressentir. Et nos émotions, en fait, sont notre guidance la plus sûre. C'est une émotion... Car... je dirais que c'est l'émotion d'amour qui nous touche. Et l'émotion d'amour, c'est quoi? C'est quelque chose qui... On sent que c'est juste.
On ne peut pas l'expliquer. C'est là, c'est tout. C'est quelque chose qui parle au cœur, qui est inexplicable, et ça ne concerne pas les autres. Ça ne peut pas être vérifié à l'extérieur. D'ailleurs, nous avons tous régulièrement cette sensation, ce sentiment, quand nous partageons ce genre de choses, en disant « j'ai pas les mots pour partager ça avec les autres ». Et puis si j'essaye, quelque part, je sens que je diminue, comme si je restreins cette sensation d'émotion amoureuse, on va dire, de ressenti profond, de vérité. Voilà ce que je voulais te dire par rapport à tes émotions, voilà ce qui me vient.
Alors j'apprécie de plus en plus cette phrase que tu as citée, Sylvain. Seule une patience infinie donne des résultats immédiats. Je commence à la citer même dans mes groupes, parce qu'elle paraît paradoxale au premier abord. Et une patience infinie, c'est une confiance absolue, c'est une foi. Et cette foi-là déplace en effet des montagnes. Et il a été donné à certains malades en phase terminale de cancer une gélule qui était censée contenir une molécule miracle qui venait d'être découverte et qui pouvait guérir ce cancer. Les malades ont guéri et dans la gélule, il y avait du bicarbonate de soude. Parce que la foi était absolue. La confiance dans « je peux guérir » est absolue. Et les mots « je peux guérir » sont le remède et non le bicarbonate. Et en vérité, je peux guérir de tout. Puisque toutes les maladies sont des maladies d'amour. Et si nous regardons nos manifestations d'amour, nous voyons que c'est très simple d'aimer. C'est très détendu d'aimer. Ça n'invoque aucun effort. Plus nous nous posons, plus nous déposons les résistances, plus nous déposons les masques de l'ego, et moins nous faisons de choses, et plus cette nature peut rayonner d'elle-même. Quelqu'un disait, ta tâche sur terre n'est pas de trouver l'amour, mais de trouver et de déconstruire les barrières que tu as construites contre l'amour. C'est rappelé d'une autre manière dans l'introduction d'un cours en miracle. Donc, c'est très simple d'aimer, c'est vraiment très simple. C'est arrêter de faire quoi que ce soit pour se protéger, de donner, pour se protéger de recevoir. Mais ça demande une confiance absolue dans laquelle le besoin de protéger peut se dissoudre. De se protéger. Je cite souvent Henri Gougaud avec cette phrase très inspirée pour moi qui dit « La confiance, c'est la certitude que rien n'est sûr, mais que tout ira bien. D'emblée, je sais que tout va bien, tout va toujours très bien. Même si ce monde passe par des états incertains, par des états non prévisibles. À long terme et en toile de fond, tout va toujours très bien. Donc dans ce groupe qui se pose, qui dépose les peurs non adéquates, non utiles, obsolètes, qui peut aussi déposer certains conditionnements, il faut paraître comme ci, il faut paraître comme ça. Alors l'amour transpire plus facilement, transparaît à travers plus facilement. Nous sommes des fêlés de la lumière, parce que la lumière transparaît à travers les fêlures. C'est pour ça que, au fur et à mesure que le temps passe et que le rythme lent est lent et que le besoin de se protéger peut devenir minime, alors nous pouvons nous sentir plus unis les uns aux autres, plus en famille. Et en vérité, l'esprit est avec nous, l'esprit c'est l'amour pur. Pourquoi l'esprit est avec nous? Pourquoi j'appelle ça la descente de l'esprit? Parce que nous nous protégeons de moins en moins et donc qui nous sommes transparaît de plus en plus. Rien n'est descendu réellement. Mais notre nature commence à se révéler. Cette intimité profonde qui nous caractérise tous. Depuis cette phrase, nous sommes tous un, peut enfin être perçue, parce qu'elle n'est pas gênée, elle n'est pas voilée par les agissements de l'ego. C'est pour ça que cette leçon du cours magnifique qui dit simplement « Vous n'avez rien besoin de faire » peut prendre tout son sens. Vous n'avez rien besoin de faire ici, seulement d'être qui vous êtes, être vous-même. Tu n'as rien besoin de faire, toi qui écoutes. Juste laisser le cœur fonctionner comme il sait fonctionner sans ta volonté. Aimer, ce n'est pas un acte volontaire, ce n'est pas dans le registre du faire. Donc, lorsque je n'ai rien besoin de faire, je peux enfin me détendre. Je peux faire des choses parce que je me sens inspiré à les faire. Mais je n'ai pas besoin spécifiquement de les faire. Et puis... J'ai envie de citer une phrase du dernier chapitre du cours en miracle, chapitre 31, qui s'intitule « La vision finale », ce chapitre. Et à la page 693, il y a le paragraphe qui s'appelle « La simplicité du salut ». Et ça me parle tout à fait de aimer est simple. C'est se protéger de l'amour qui est compliqué, qui demande des efforts. Soyons calmes un instant et oublions toutes les choses que nous avons jamais apprises. Toutes les pensées que nous avons eues. Chaque préconception que nous avons sur ce que les choses signifient et ce qu'est leur but. Ne nous souvenons pas de nos propres idées, sur ce à quoi sert le monde. Nous ne le savons pas. Puisse chaque image que nous avons d'autrui être relâchée de nos esprits et balayée. La simplicité du salut, ça veut dire que je n'ai pas besoin de sauver quiconque dans le monde, mais je me sauve moi-même dans cet état d'esprit-là. Je relâche mes croyances, mes idées, mes pensées. Mes jugements. Pourquoi je relâche ? Parce qu'il n'y a rien ni personne à défendre dans cet état-là. Il n'y a rien ni personne à attaquer dans cet état-là. Cela est le salut. Je me sauve moi-même des croyances inutiles que j'ai entretenues. J'y ai cru un moment et maintenant... Je vois qu'elles sont obsolètes, qu'elles ne correspondent plus à l'énergie du moment. Ceci est la vision finale, c'est-à-dire le but d'un courant miracle. Pouvoir voir les choses différemment et relâcher le monde de ce que je croyais qu'il était. Et comme dit ce paragraphe, je ne sais pas à quoi sert le monde. C'est juste un outil qui va me révéler quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas à quoi sert le corps. Je ne sais pas à quoi sert le temps. Je ne sais pas à quoi sert l'espace. Mais tout ça est ma création. Je suis venu avec ma boîte à outils dans le monde pour vivre cette dualité. Et je joue avec mes outils, je les utilise, jusqu'au moment où, joyeusement, je les lâche. Parce que l'outil n'a pas vocation à être conservé, mais à remplir sa fonction pendant un temps. Le temps que durera la pensée fausse de séparation. Le temps va séparer les espaces, les uns des autres, les moments. L'espace va séparer les corps et les objets, apparemment. Le monde est le théâtre dans lequel, apparemment, cela se passe. Voilà, et tout ça en son temps pour être joyeusement lâché, car ne servant plus à rien. En attendant, nous pouvons bénir les outils, bénir le fait que ce sont tous des tremplins vers l'amour. Parce que chaque fois que j'ai choisi différemment, grâce à ces outils, je vais pouvoir rechoisir. Si j'ai été rancunier à un moment donné, 5 minutes plus tard, 10 minutes plus tard, 10 ans plus tard... Une vie après, le temps va me servir à pardonner ce qui s'est passé apparemment dans un autre temps et qui apparemment est révolu, mais existe dans le non-temps en permanence en tant que énergie, en tant que inconscient collectif qui s'ajoute à l'ensemble des expériences de toute l'humanité. Alors je peux à tout moment décider de guérir une expérience, c'est-à-dire de voir la situation avec les yeux de l'amour et d'effacer cette charge qui résidait en moi, que j'avais choisi de faire durer en moi. Et c'est le but de cet outil que nous propose un cours en miracle, qui est le pardon véritable. Tant que je crois que quelque chose ou quelqu'un m'a blessé ou m'a fait du mal ou peut me nuire, alors j'ai oublié la véritable nature de cette personne ou de la situation. Et le but du pardon est juste d'appeler à l'aide pour me rappeler qui l'autre est, mon frère d'amour, ma sœur d'amour, qui endosse un costume soigneusement taillé sur mesure pour me dire « aime-moi dans cette situation, malgré les apparences, aime-moi, rappelle-toi qui je suis et rappelle-toi qui tu es, et ensemble rions de la scène ». Donc utilisons le temps pour rappeler des vieilles rancunes à nous par la mémoire. Utilisons l'espace pour aller retrouver des anciens ennemis et en faire de nouveaux amis. Par la grâce du pardon et la vision finale, et ce salut-là que j'ai lu, soyons calmes un instant et oublions toutes les choses que nous avons jamais apprises. Ça peut être vécu comme un instant de grâce, un instant où plus rien n'encombre l'esprit, où seul l'amour, qui est la seule vérité, la seule fréquence qui existe dans l'univers entier, qui est Dieu à l'état originel, à l'état pur, qui est nous-mêmes à l'état pur, non filtré. Seul Dieu peut se révéler, seul l'amour, dans ces moments-là, peut se révéler dans sa splendeur. Il est très simple d'aimer. En vérité, nous ne savons pas faire autre chose. Nous imaginons que d'autres choses, d'autres comportements puissent exister. Mais soyons calmes un instant et assurément dans cet instant saint, dans cet instant de grâce, l'amour ne peut pas ne pas se révéler parce que nous laissons décanter toutes les agitations qui semblent nous séparer de l'amour. Nous sommes dans l'océan. Comment est-il possible de ne pas aimer alors que nous sommes complètement dans l'océan d'amour? Oublions un instant la bulle illusoire que nous avons créée dans l'océan d'amour. Ouvrons les yeux et avec la vision finale, regardons autour de nous. Et dans cette vision, seule la grâce de ce qui est peut apparaître. Et ce moment-là n'est juste qu'un choix à faire. Que la grâce de tout ce qui est me soit révélée. Je peux juste le demander si ce n'est pas présent dans ma vie. Demande et tu recevras. Et lorsque vous parlez au nom de l'amour, assurément, vous êtes entendu par l'univers, par Dieu, par votre esprit pur. Quoi que ce soit que vous demandez avec une intention pure, se manifeste tôt ou tard, puisque c'est notre nature. Comment notre nature pourrait ne pas se manifester si nous la demandons? C'est impossible. Je veux le bien sans opposé. Je veux l'amour sans condition. Ces phrases sont puissantes même si je n'y crois pas, puisqu'elles représentent des échos de la vérité, la seule vérité qui existe. Et elles sont de nature à désactiver toutes les idées fausses que j'ai à ce sujet. C'est la seule et unique chose et la plus simple possible qui soit d'aimer. Et une mère qui accueille son enfant dans la vie en est un bel exemple. Je donne et je donne. Et il n'y a rien à prendre parce que l'acte de donner me nourrit. Je reçois en même temps. La vie s'alimente d'elle-même. Nous sommes des êtres grandioses qui s'amusons à nous imaginer petits. Nous avons les ailes d'un aigle et nous nous croyons des petits moineaux. Voilà, l'invitation, c'est de nous rappeler de cette nature d'aigle qui a une vision claire et des ailes puissantes.
J'aimerais reparler maintenant d'un peu du désir, et que si on peut regarder ensemble, ça peut nous aider beaucoup. Ce que c'est que ce désir? Quand je veux de l'argent, quand je veux une relation, quand je veux une promotion à mon travail, pourquoi? Et puis quand je gagne l'argent, ou j'ai de l'argent qui m'arrive de manière inattendue, ou tout d'un coup j'ai quelqu'un qui me sollicite pour venir le voir ou la voir, et où j'ai telle promotion à mon travail, ou une reconnaissance, quelque chose, je me sens bien.
Pourquoi ? Pas parce que, pas à cause de la forme, parce que mon désir a disparu dans l'instant. Bien sûr, il va revenir. Ce monde est plein de stratégies pour gagner, pour se sécuriser. Et donc on est là, par exemple, ceux qui jouent en bourse, mettons. On dit bien jouer en bourse, et c'est sans fin. Et alors on est là, regardez, ça baisse, ça monte, ça baisse. On va effectivement jouer à la baisse, jouer à la hausse, etc., faire des tas de choses. Pourquoi ? Et puis, c'est toujours gens qui rient, gens qui pleurent, et on se retrouve et on dit quelles sont les bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, c'est, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est la disparition du désir, on se sent en paix. J'ai gagné. Ah, c'est formidable. Je fais la fête, tiens, je vais acheter du champagne, j'ai gagné. Et puis le lendemain, oui, mais il m'en faut plus. Parce que déjà, ça revient, parce que j'ai gagné quoi ? Un peu d'argent, mais ça peut partir. J'ai gagné une relation, mais la personne peut s'en aller. Et même quand je cherche une relation amoureuse, par manque, quelque part, j'ai peur. Parce que si je la trouve, eh bien, la personne peut partir. Elle peut tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Elle peut quitter son corps. Elle peut tomber malade. Elle peut, tout d'un coup, alors qu'elle a de l'argent, tomber en faillite, etc. Enfin bref, il peut se passer mille choses. Et c'est pour ça que le cours en miracle nous dit, la loi de l'ego, c'est cherche mais ne trouve pas. Cherche mais ne trouve pas. Et pourquoi est-ce que, finalement, nous sommes là, les uns les autres, à des moments, avoir des agacements, à dire, mais j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Et si je regarde bien ce que je veux des possessions pour me sécuriser dans quelque chose qui n'a pas de permanence, qui va s'en aller tôt ou tard. Et donc, quelque part, c'est ma mort que je veux, parce que je m'identifie à ce que je veux. Parce que si je ne l'ai pas, je manque. Donc, je vais grandir, je vais devenir quelqu'un parce que je vais avoir une belle voiture, une belle maison, de l'argent, une renommée, etc. Donc, je suis à ce moment-là quelqu'un, comme on dit. Mais en fait, c'est une illusion formidable. Et on observe des gens qui sont connus, qui ont des possessions matérielles importantes, etc. Et puis, vers la fin de leur vie, quelque part, il y a un désespoir formidable. Et en fait, tout le temps, toute la vie, ça a été la satisfaction d'un désir. Et puis, il y a eu des bons moments et puis les mauvais moments. Et les mauvais moments, souvent, peuvent paraître insupportables. C'est terrifiant, j'ai plus rien, je ne sais pas quoi faire. Et puis, il y a un appel profond à dire arrête les stratégies. Tout à l'heure, on parlait de confiance avec Avi, effectivement. Cours en miracle, cours confiance, confiance. La confiance, c'est la confiance. Et quand Jésus nous disait il y a 2000 ans, n'investissez pas dans ce qui est périssable, là où le ver dévore, investissez dans ce qui est éternel, c'est-à-dire la base de la construction qui est l'amour. Parce que cet univers que nous, il est à notre disposition, car nous sommes créateurs, c'est nous qui le créons, qui le co-créons. Et c'est un univers amoureux qui nous donne très exactement nos croyances. Mais comme nous croyons en la séparation, eh bien, nous vivons la séparation. Ce qui implique effectivement le manque, l'impression d'être coupable, l'impression d'avoir peur par rapport au futur, et puis le doute. Donc, quel est mon désir ? Et nous commençons à comprendre, allons-y en 2013, ce début d'année, que ce qui importe, c'est de suivre son désir dans l'instant. C'est une guidance. Par exemple, j'ai envie d'acheter des fruits. C'est là que ça se passe, ou j'ai envie de m'arrêter prendre un café. Prenons un exemple. Il y a quelques jours, j'étais avec quelqu'un en voiture, et puis cette personne partait, et puis je lui dis, ben voilà, tu vas m'emmener à l'aéroport Charles de Gaulle, c'est sur ta route, tu me laisses, et moi je reprends un RER pour rentrer sur Paris, et toi tu continues, vers le nord. Très bien. Et puis, donc je guidais cette personne, j'ai dû prendre cette sortie vers Charles de Gaulle au moins 200 ou 300 fois. Et depuis la création de Charles de Gaulle, je ne me suis jamais trompé. Cette fois-là, je me suis trompé, j'ai laissé passer la sortie. Et donc je me suis dit, mais c'est pas possible ça. Et puis, je me suis dit, on va sortir à la prochaine, mais c'est à peu près 10-12 km encore. Mais je vois un écriteau R de Weimar.
ouest. Et là, je dis, ah ben tiens, on peut s'arrêter prendre un café. Et je dis un café-message. Je dis même un café-message parce que je sentais l'intuition que cette personne qui était assez médium, qui était avec moi, éventuellement allait me passer un message ou peut-être prendre un message. Et je la laisse, encore une fois, l'intuition. Donc, le désir, c'est prendre un café, éventuellement, mais c'est une guidance. Et puis, et finalement, elle s'arrête. Effectivement, elle sort, on s'arrête. Et on s'installe dans un endroit que je trouve très beau. On se prend un délicieux café qui était excellent, à ma surprise. Et on commence à parler. Et cette personne me fait parler pendant une demi-heure. Et je me mets à parler du centre qui est dans mon cœur. Un centre d'amour, un centre physique, un domaine avec des terres, avec des bâtiments, avec de la permaculture, avec beaucoup de choses, des réunions, des fêtes, des séminaires, des ateliers, un tas de choses. Quelque chose de vivant, d'amoureux, de merveilleux, de co-créateur. Et puis, voilà, et puis au bout d'une demi-heure, on part. Effectivement, on revient, on refait tout le tour, je me reprends à Charles de Gaulle, et là j'ai compris dans le RER en rentrant, j'ai dit, mais c'est incroyable. J'ai suivi mon désir dans l'instant, et le désir, je suis guidé, je suis même guidé à me quitter, parce que mon désir c'était de donner ce message sur le centre, c'était à moi de le donner, à ma surprise. Donc ce que je suis en train de dire là, évidemment l'exemple est un peu subtil, c'est que on accueille nos désirs dans l'instant, par exemple prendre un café, et en même temps on ne s'accroche pas aux désirs. C'est ça l'erreur d'ailleurs de la plupart de ceux qui suivent les enseignements du secret ou des manifestations par la pensée positive, etc. C'est qu'en fait, c'est encore l'ego qui revient par derrière pour essayer de créer du bien-être matériel pour se sécuriser. Évidemment, on crée davantage de pauvreté à ce moment-là, tôt ou tard. Ça peut marcher temporairement, c'est vrai. Mais tôt ou tard, ça ne peut pas marcher parce qu'on est créateur. Donc, c'est très subtil de parler de ça parce que le désir est fondamental. Sans désir, il n'y a rien. Et le désir, c'est une guidance. C'est ce que m'avait dit Yeshua avant que j'aille en Israël. L'année dernière, et puis cette année aussi, c'était la même chose, en disant à chaque fois que tu ne sais pas quoi faire, demande-toi ce que tu veux dans l'instant. Est-ce que tu veux marcher? Est-ce que tu veux t'arrêter prendre un café? Est-ce que tu veux parler à quelqu'un dans la rue ou rentrer dans un magasin? Et d'ailleurs, Avi qui est là, puisque nous avons été en Israël l'année dernière, au mois d'avril-mai, eh bien, nous avons finalement écouté notre désir. Nous avons été guidés les uns les autres à chaque fois nous concerter. Est-ce que nous sommes d'accord pour faire ça? Et à chaque fois, il y avait oui, mais il n'y avait pas d'attente. Ou il y en avait très peu, on va dire. Et nous avons eu des surprises sans cesse, des émerveillements, avec des choses qui se passaient spontanément. Il y avait donc un cœur, un désir, mais en même temps, on ne s'accroche pas au désir. Et c'est toute la question. Et donc, si je sens de... Par exemple, je dis, j'ai besoin d'argent, ou j'ai besoin de... J'aimerais avoir une relation. Oui, ok, je note ça. Et je la mets au service de l'amour. Je mets tout ça au service de l'amour. Ignéa Benz, par exemple, dans une de ses vidéos, elle parle de l'argent et de l'abondance. Et finalement, elle dit que pendant longtemps, elle a toujours eu ce qu'il fallait, mais juste exactement ce qu'il fallait. Et puis maintenant, elle a un peu changé parce qu'elle se dit, mais je peux avoir beaucoup plus. Souvent, elle ajoute, je peux avoir beaucoup plus parce qu'à ce moment-là, je peux faire des choses pour les autres. C'est-à-dire, je peux être plus généreuse, donner des choses. Mais c'est la même chose. En fait, c'est la même chose. Ça veut dire, je suis mon désir. Ben, mon désir, c'est effectivement d'avoir ce qu'il faut pour vivre. Je n'ai absolument pas à être pauvre ou à manquer de quoi que ce soit. Et en plus de ça, j'ai la joie de pouvoir partager des biens, des choses comme ça. Donc, je ne mets pas de limite à l'abondance. C'est encore un désir. Mais c'est un désir au service de l'amour, au service de l'ouverture de cœur, au service du partage, au service de ces relations amoureuses que nous sommes appelés maintenant à vivre de plus en plus consciemment ensemble. Et ce mot « ensemble », il devient fondamental. Je vous ai dit tout à l'heure que je me suis incarné donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ce que j'ai reçu comme information, c'est qu'à un niveau beaucoup plus élevé dans le plan divin, il avait été convenu, il y avait un accord, il y avait différentes possibilités d'incarnation, il pouvait y avoir des leaders, des leaders comme des gourous, etc., des prophètes, et puis en fait, ce n'est pas ce qui a été choisi pour cette période actuelle, justement pour ce nouveau monde. Où il n'y a pas de leader. Il y a des frères et des sœurs égaux qui se retrouvent ensemble, où chacun est absolument égal à l'autre, au sens de divinement égal, au sens de Christ. Alors ça devient extraordinaire. Le jeu est fantastique. C'est pour ça que l'ère des grands maîtres et des grands gourous a servi à quelque chose, mais c'est en train de se terminer. Maintenant, c'est une ère de relations amoureuses d'égal à égal. De frères et sœurs qui se reconnaissent, qui se regardent en disant « Mais je t'aime, je ne mets pas de limite à qui tu es. » Même si temporairement, il y a encore des rôles apparemment avec certains qui sont plus leaders que d'autres. Mais on sait très bien que c'est une illusion temporaire. Ça sert temporairement. Mais ça sert à quoi? Ça sert au réveil à qui nous sommes. C'est-à-dire à la plénitude de ce qu'est chacun. Une plénitude infinie. Donc cette notion de désir, et nous connaissons tout ça, puisque quand on se sent mal, on veut arriver à quelque chose, ce qui nous fait mal, c'est le désir lui-même. Et quand il y a obtention d'un résultat, encore une fois, une relation, une somme d'argent, une promotion au travail, ce que vous voulez, il y a apaisement tout de suite. Et c'est intéressant de le noter. D'où vient cet apaisement? Pas de la somme d'argent. Le désir a disparu. Et donc il y a la paix. Donc ce désir par manque, par peur, par culpabilité, par doute, c'est un désir qui ronge, qui n'est pas confortable. Et tant qu'on essaye de le satisfaire avec la croyance, avec le doute, avec la croyance à la culpabilité et avec la croyance à la peur de manquer, qu'il faut essayer de combler, ça ne marche pas. Encore une fois, on ne veut pas regarder ça et le monde de l'ego le cache soigneusement. Alors on fait des promesses, on est là et puis on essaye de meubler la semaine et puis l'année, on projette des vacances, etc. On se fait des petites carottes partout et puis en évitant les coups de bâton. Mais ça ne marche jamais. Et on retombe en dépression, on retombe sans cesse. Ces gens qui rient, gens qui pleurent. Parce qu'il y a toujours ce désir et on ne se rend pas compte que c'est le non-désir qui est la paix. Donc quand effectivement je pose les armes, quand effectivement je respire, je fais confiance et que je laisse l'amour me parler, je laisse la voix divine en moi, la petite voix tranquille me dire « Je suis là, je suis amour ». C'est au-delà des mots, c'est au-delà des formes. Là effectivement le désir a disparu au sens de désir par manque, par besoin de posséder, par besoin de s'accrocher à quelque chose. Il y a fluidité. Et à ce moment-là, les désirs qui viennent sont simplement accueillis. Par exemple, tiens, c'est drôle, j'ai envie d'aller me promener en forêt. Tiens, j'ai envie de proposer un week-end, ou un groupe, ou j'ai envie d'écrire, ou j'ai envie de... n'importe. Ou de téléphoner à quelqu'un. Oui, ça, effectivement, c'est accueilli. Mais c'est accueilli dans la liberté. Et non pas, c'est accueilli sans chercher à prendre ou à projeter. Sans chercher à le prolonger dans le temps, dans le futur. Par exemple, mettons, je vais écrire un livre. Bien. Et moi, j'ai écrit un livre comme ça en 7 jours, aux États-Unis, en 90, 90, 92, je ne me souviens plus exactement l'année, où j'avais l'intuition que j'allais écrire un livre en 7 jours. Et je me retrouvais toutes les nuits dans un motel différent, et j'écrivais. Et le livre avait 7 chapitres, il s'écrit en 7 jours, et je disais, c'est drôle, je vais écrire un livre en 7 jours, mais j'arrête pas de le lâcher, ce livre. Qu'est-ce que je fabrique encore? Là, c'est le troisième jour, j'en suis au chapitre 3, par exemple, et je suis encore en train d'écrire. Et tout le temps, je lâchais ce livre. Et finalement, ce livre était terminé exactement à minuit dans l'avion de retour, exactement pile à minuit. J'étais soufflé. Donc, j'avais suivi le désir dans l'instant, mais en ne m'accrochant pas à mon désir, en ne cherchant pas à forcer les choses. Et effectivement, à ma surprise, un livre quand même qui faisait, 80 pages de polycopie assez bien rempli, a été écrit en 7 jours exactement, et puis l'esprit est malin parce que ça s'est terminé à minuit pile dans l'avion, avec un éclat de rire formidable, avec des synchronicités incroyables. Mais si je partage cette expérience, c'est pour dire que j'ai suivi le désir dans l'instant, sans chercher à faire quoi que ce soit d'artificiel, c'est-à-dire à me forcer. Si je n'ai pas envie d'écrire, j'écris pas. Donc j'écrivais souvent. Si j'ai pas envie d'écrire, je ne vais pas écrire. Et ce livre ne sera pas écrit. Mais pour le moment, je sens d'écrire. Et il est 4 heures du matin, je suis dans tel motel, et je suis en train d'écrire. Bon, ça, c'est ce qui se passe actuellement. Donc j'accueille l'instant, mais je ne le projette pas dans le futur. C'est une notion qui a l'air, comme ça, peut-être un peu marginale.
c'est fondamental. C'est un gage de liberté extraordinaire et c'est un gage de création efficace, amoureuse, utile à tout le monde. Et ça, c'est 2013, c'est la nouvelle ère, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est comme ça. Bon, ce désir, il est accueilli, sans désir, il n'y a rien. Il est accueilli, il est offert à l'esprit et on va avec. Et évidemment, on est accompagné avec des synchronicités, avec des miracles, avec des problèmes qui se résolvent, etc. Un tas de choses, hein, chacun dans son chemin individuel. J'accueille mon désir, je ne m'y accroche pas. Et j'oublie pas que je ne vis que l'instant présent. Donc l'instant présent, je l'accueille totalement. Et si j'ai des pensées de doute, je les note, et j'ai dit c'est des pensées de doute. Mais j'ai confiance que je suis guidé comme chacun de mes frères et sœurs. Nous sommes tous guidés parfaitement dans un jeu parfait. C'est pour ça que cette notion de perfection du plan, cette notion que l'instant présent est parfait, devient une notion fondamentale, parce qu'il est vraiment parfait. Alors on va dire, comment est-ce qu'il est parfait alors qu'il y a des guerres, il y a des difficultés partout, les gens se sentent mal, ont des dépressions, etc. Il est parfait en fonction de l'état de conscience de tout le monde. On ne va pas contre la conscience de quelqu'un. Car chacun est le Christ, chacun est libre à l'infini. Donc l'esprit lui-même ne va pas contre lui-même. C'est un jeu qui est comme ça, c'est ce jeu incroyable de l'ego. Et c'est justement dans un accueil amoureux de ce jeu, mais pleinement amoureux, que l'ego est transcendé. C'est justement ce défi fantastique que nous sommes en train de vivre ensemble, de co-créer ensemble.
À vrai dire, je me sens un petit peu loin de vous. En termes de proximité par rapport au divin, je me sens très proche de vous par rapport à la notion de l'amour. Et du désir aussi. J'ai vécu le désir d'enfant pendant, on peut dire, 3, 4, 5 bonnes années avant de trouver l'homme avec qui je pouvais créer ce nouvel être. Et le désir était, quand tu parlais tout à l'heure du désir en disant, on ressent le désir, mais si le désir ne se réalise pas, on le laisse passer. Ben là, c'était pas possible parce que c'était comme ça. Je ressentais ce désir profond d'enfant et il fallait absolument que j'enfante, c'était clair. Donc, le jour où j'ai décidé, avec mon compagnon, de faire cet enfant, eh bien, deux, trois mois après, j'ai appris qu'il avait un cancer très grave et qu'il n'en avait plus que pour quelques mois. Je ne me suis même pas posé la question est-ce que j'allais faire cet enfant ou pas faire cet enfant. La décision était prise avec lui. Elle avait été prise dans un désir mutuel, dans un amour mutuel. Et donc, pour moi, ça ne faisait aucun doute. Je me suis dit, cet enfant, le père, on ne sait pas combien de temps il vivra, mais on sait que c'est très peu de temps. Et il aura son chemin, il aura sa route. Et pour moi, c'était d'emblée la route de l'amour. Ça m'émeut au cœur d'en parler d'ailleurs.
Et quand cet enfant a eu, enfin avait 5-6 ans, j'avais une amie qui était très proche. Et j'ai eu un petit moment de... Ça m'arrivait, j'avais des moments de découragement. Et je lui ai dit, mais c'est quand même malheureux. Cet enfant sans père, il a eu un père bien sûr, mais sans père physiquement présent. Que va-t-il devenir ? Et elle m'a dit quelque chose qui m'a tellement frappée et impressionnée que j'ai gardé ça pendant... Je crois que je garderai ça toute ma vie. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu sais, toi, de ce que va devenir cet enfant ? Qu'est-ce que tu sais, toi, du destin qui lui est promis ? Et peut-être justement qu'il a été créé, qu'il est arrivé sur Terre avec cette absence paternelle, physique. Peut-être parce qu'il va lui-même devenir un père pour les autres. Donc l'amour, je lui ai donné tout ce que j'ai pu, tout ce que j'ai su. Aujourd'hui, enfin, il y a eu des petites expériences sympathiques aussi. C'était du genre, tu sais, dans la vie, on peut tout avoir, on peut tout faire, on a le droit de tout. C'est juste une question d'y croire. Et puis c'est juste une question aussi de simplement penser aux autres, respecter les autres. À partir du moment où tu as ces deux principes-là, ben, tu peux aller aussi loin que tu veux. Et ça a été les bases de mon éducation. Il faut dire que moi j'ai été éduquée à la trique. Donc je tenais à faire quelque chose de différent. Et ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, il est en train de construire des ponts entre des civilisations qui ne se connaissent pas ou qui se méconnaissent, tout simplement, bon, dans des milieux associatifs, la plupart du temps, où ils ne gagnent pas du tout l'argent qu'ils pourraient gagner par rapport à ces diplômes. Ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est que des gens très différents, qui sont de continents différents, se rencontrent au travers d'Internet, au travers d'expositions, de photos, de vidéos, enfin, avec tous les moyens modernes qui peuvent exister, des civilisations anciennes avec des civilisations modernes, et qui est justement ce pont d'amour entre ces gens-là. Parce qu'il a constaté, par exemple, j'étais à un moment donné déléguée au jumelage de la mairie où j'habite, et il a constaté que il y avait un tout petit groupe qui s'occupait des jumelages, et puis que tout le reste de la ville ne connaissait absolument pas les villes jumelées. Il s'est dit, mais c'est une ineptie. Il a dit, c'est une ineptie. Il faut régler ce problème-là. C'est pas possible. Donc, il est parti de là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il travaille dans son association totalement bénévolement. Quand il a plus d'argent, alors dans ce cas-là, il se met à gagner des sous en faisant des travaux qui sont à sa dimension, et il est capable d'en gagner. Quand il en a assez, il repart dans son association et il remet en place des projets qui sont financés mais qui ne financent pas un salaire, etc., etc. Et donc, finalement, je me dis, c'est vrai, je sens que, quelque part, moi, Je lui ai transmis un certain nombre de choses. Il a aussi acquis des choses pendant son éducation, avec ses maîtres, avec son entourage. Et je me dis que c'est une partie d'amour, et c'est une partie de Dieu probablement, qui est en lui et qui se manifeste. Donc pour moi, je suis toujours à la recherche, je suis toujours sur le chemin, je suis toujours en train de chercher Dieu. Je ne trouve pas. Je trouverai peut-être un jour, je ne sais pas. Mais du moment que je suis sur le chemin, c'est le principal pour moi en tout cas, ça c'est clair. C'est pour ça que je vous disais, j'étais un peu loin. Mais en même temps, ça me fait rigoler parce que hier, j'écoutais sur France Inter une émission sur un Danois qui écrit des contes sur les elfes. Et il racontait que les elfes étaient des petits êtres malicieux qui vivaient dans des cavernes ou qui vivaient dans des grottes. Et qu'on racontait beaucoup de contes sur les elfes au Danemark, mais quand même de moins en moins. Et qu'il y avait énormément d'elfes, mais que comme on racontait de moins en moins de contes sur eux, qu'il y avait de moins en moins de grands-mères et de grands-pères qui racontaient, alors on y croyait moins. Et moins on y croit, et moins on en a. Moins il y en a. Donc je crois que plus on croit en l'amour, et plus il y en a.
Merci. Alors, si je peux répondre par une seule phrase, je suis très inspiré à dire que si tu te sens proche de nous dans l'amour, alors assurément, Dieu étant amour, tu es proche de Dieu de la même manière que nous. Voilà, c'est le temps de conclure ce groupe. Alors, d'ores et déjà, je vous donne le prochain rendez-vous. Ce sera dimanche prochain, le 13 janvier 2013. Et le thème de cette réunion, ce sera l'amour. Celui de la semaine d'après, ce sera l'amour aussi. Celui de la semaine suivante, ce sera aussi l'amour. Et ainsi de suite, pour tous les groupes de toute votre vie. Le thème central, c'est l'amour. Et nous n'avons pas besoin de réviser parce que nous le connaissons sur le bout des doigts. Voilà, on termine par un petit gong. Je nous aime.